Si vous n'étiez pas là hier soir, nous avons entamé notre première étude sur le thème investir pour l'éternité ou miser sur l'éternité. Et j'ai expliqué hier soir, je vais juste peut-être faire un peu de... Bon, ça aussi, c'est... Je vais expliquer un peu où nous étions hier soir pour vous donner l'entrée dans le message de ce matin. Donc, nous avons dit que nous regardons l'Évangile selon Luc, la section du milieu de l'Évangile selon Luc, qui représente un enseignement unique pour les Évangiles, quand Luc donne toutes ses paraboles qui touchent beaucoup à la vie de l'homme, à la vie quotidienne. Mais ça parle des finances, ça parle de comment nous voyons cette terre par rapport à l'éternité. Et c'est ça le... Peut-être ça va revenir. Je suis perdu sans mes diapos. Et pourtant, j'habite en Afrique où la plupart du temps, on n'a pas le courant. Les mots qu'on déteste le plus, c'est « désolé, il n'y a pas la connexion ». Et que ça, rien ne marche, mais bon. On relance. Donc, hier, on a comparé deux genres de personnes que Luc utilise comme les contrastes, les grands contrastes dans son évangile. Ce que j'ai appelé les bonnes santé, les gens qui pensent être en bonne santé, comparés à des pauvres ou des pécheurs. Et dans le contraste de Luc, ce n'est jamais celui qu'on pense être mieux qui est mieux. Les bonnes santé, en fait, sont les pires et les pécheurs ou les perdus sont les gens que... La Bible dit, Luc 19, 10, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Ça marche maintenant? Le prédécesseur l'avait éteint et je n'ai pas remarqué ça. On m'a joué un tour déjà. Ok, bon, c'est bon, désolé pour le... C'est moi qui ai compliqué la vie pour tout le monde. Donc, juste pour finir cette introduction ou ce résumé, les pauvres contrastés avec les bonnes santé devient le thème de cette section de chapitre 5 au chapitre 19 de l'Évangile selon Luc. Hier, on a utilisé le mot « objectif ». Quel est l'objectif de la vie pour les hommes? Et j'ai fini par une phrase que Luc utilise dans le chapitre 12, notre message d'hier soir, que la vie est prévue pour que l'homme soit riche pour Dieu. Les hommes cherchent à être riches pour la plupart, mais Luc dit... Et Jésus dit que le but pour nous, l'objectif pour nous, c'est d'être riche pour Dieu. Et ce n'est pas la même chose qu'être riche. Donc ce matin, le mot que j'ai choisi, c'est le mot « coût » ou « prix ». Combien ça coûte de suivre Jésus? Si on va investir, si on va miser sur l'éternité, c'est cette question en fait qui doit nous préoccuper. Combien ça coûte? Je ne sais pas si vous faites comme ça, quand vous allez au marché, vous allez au supermarché, mais bon. J'ai dit souvent à ma femme, parce qu'on doit descendre à Lomé pour faire nos courses. Ça fait 8 à 10 heures de route pour faire des courses. Et qu'il y a des fois, on est devant un produit, elle dit, ça semble un peu cher. Et moi, je dis, rappelle-toi, 10 heures. Okay. 10 heures. Je ne veux pas retourner. Je veux pas retourner à Mango et après elle dit bon j'aurais dû acheter ça. Et des fois je dis regarde pas le prix, mais que il est normal, il est bien de poser cette question pour la plupart des choses. Combien ça coûte? Et dans la vie spirituelle cette question ça arrive. Qu'est-ce qu'il faut? Combien d'œuvres faut-il? Beaucoup de gens posent cette question. Quel est suffisant d'œuvres pour plaire à Dieu? Ou est-ce qu'il faut un peu de grâce, beaucoup de grâce, ou que de la grâce pour entrer? Et ces questions-là, peut-être que vous vivez ça ou vous avez vécu ça, et vous avez des voisins qui sont en train de poser cette question par rapport à Dieu, par rapport à l'éternité. Qu'est-ce que ça me coûte? Ça va être la question du chapitre 14 de Luc. Mais le chapitre commence avec une autre question qui est le point de lancement d'introduction pour ce chapitre. Comme ça arrive souvent dans l'interaction entre Jésus et les pharisiens, je ne sais pas pourquoi Jésus continue à faire ça, je crois que c'est pour les pousser, mais il semble que dans les évangiles que c'est presque toujours le jour du sabbat que Jésus guérit des gens. Et il est toujours entouré de pharisiens qui n'aiment pas qu'il guérisse le jour du sabbat. Et ce jour-là, il y a un homme, la Bible dit qu'un homme qui avait des œdèmes, je ne sais pas tout à fait, peut-être le personnel médical pourrait nous expliquer exactement à quoi ça ressemble, mais tout ce que je sais, ce n'était pas beau. Donc il a des tumeurs, des plaies, des choses partout sur son corps. Et il est là, il se présente devant Jésus. Et Jésus, avant de faire quelque chose, il regarde les pharisiens, il dit, « Peut-on guérir un homme comme ça le jour du sabbat ?» Il est prêt à le faire. Et que cette question, il sait déjà la réponse. Et il va répondre déjà à eux que, vous êtes des hypocrites parce que si votre mouton, votre bœuf est malade ou tombe dans un trou, qu'est-ce que vous allez faire? Ah, il doit mourir, c'est le jour du sabbat. Non, vous allez enlever l'animal de son trou et vous allez le sauver. Donc ça devient une question de compassion par rapport à la loi. Par rapport à Dieu, et ça devient notre question de base, entre la grâce et la loi, Dieu offre quoi pour nous? Et ça va lancer ce chapitre, cette discussion qui tourne autour de deux fêtes, c'est des fêtes peut-être, on va dire, inventées. Jésus dit parabole, il dit... Donc, ce n'est pas forcément des fêtes qui étaient là devant eux, mais j'appelle ça les fêtes du royaume, fêtes qui nous donnent une image du royaume de Dieu, de l'éternité. Et que la question donc devient, qui aura accès au royaume? Ou comment accéder au royaume? Et puis, pour les pharisiens surtout, mais qui ne devraient pas être admis, qui n'a pas le droit d'y aller. Et quand il finit l'instruction sur la première fête, je crois que tout le monde disait, même les pharisiens disaient, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu !» Ça ne répond pas à la question « qui ?» mais ça répond à la question « pourquoi ?» parce que ça va être bien. Et j'espère, là encore, que si vous êtes là et vous êtes en train de vous poser cette question, ça coûte quoi? Combien il faut? Qu'est-ce qu'il faut faire? Que vous pouvez dire comme eux, ça vaut le coup. Ce que ça vaut le coup. Que j'aimerais bien vivre l'éternité dans le bonheur. Personne, enfin je dis personne, j'avais... connu quelqu'un qui m'a dit une fois, moi je préfère aller en enfer, c'est là où je vais trouver tous mes amis. dit, bon, je pense qu'il y a un problème avec ton raisonnement, mais... Donc, je vais vous donner trois choses que ça coûte pour entrer dans la fête du royaume, dans le royaume de Dieu, selon ces paraboles de Jésus. Premièrement, la première fête nous enseigne que Dieu réclame l'humilité. Et bon, vous allez comprendre plus ce que je veux dire par l'humilité en suivant. Je vais essayer de résumer parce que je sais qu'il n'y a personne que moi qui regarde la montre, mais que je ne veux pas trop vous garder. En fait, j'ai un train à 17h cet après-midi, donc je vais au moins vous lâcher avant 17h. Mais dans la première fête, un jour du sabbat, Jésus va dans la maison d'un pharisien pour prendre un repas. Et les pharisiens le regardent, je ne sais pas, ils l'observaient, mais ils soupçonnaient toujours le mal, donc je ne sais pas ce qu'ils pensaient qu'il allait faire. Et cet homme, avec des œdèmes sur son corps, arrive devant lui, et Jésus dit, est-ce qu'il faut le guérir? Et il y a cette discussion sur ce qu'ils vont faire avec les animaux. Et il adressa ensuite une parabole aux invités en voyant qu'ils choisissaient les meilleures places. Lui, il fait une observation. Il dit, les gens sont venus à cette fête et vous, les pharisiens, vous avez dit, moi, je suis mieux que lui, je mérite la meilleure place. Je mérite la place à côté du maître, je mérite le plus grand beefsteak, je mérite deux verres de vin, je mérite, moi, plus que lui. Et donc cet orgueil pousse Jésus à dire, quand vous allez à une fête, prenez plutôt la place que personne ne veut. Parce que c'est mieux d'être invité à prendre la meilleure place que de prendre la meilleure place et après on vous dit, c'est pas pour toi. Donc il y a cette... leçon d'humilité qui est « commence bas et tu finiras peut-être plus haut ». Et à la fin de ça, il dit « en effet, toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée ». Donc la première condition pour entrer dans la fête du royaume, c'est « on commence bas ». On a dit ça hier soir, mais j'aimerais répéter ça, que Dieu n'est pas en train de chercher les bons. Okay. Si vous pensez que Dieu veut que vous soyez là à cause de vous, vous vous trompez. Parce que notre justice n'est que des linges sales. Notre justice que nous pouvons prétendre offrir à Dieu, ça ne vaut rien à ses yeux. En fait, il a payé ce qui était... Paul le dit comme ça, « Ce qui était gain pour moi, j'ai compté comme des ordures face à l'excellence de Jésus-Christ. » Rien que j'ai à offrir à Dieu, il veut rien de tout ça. Tout ce qu'il veut, c'est moi. Il est prêt à payer le reste, il est prêt à offrir le reste, mais il veut que je sois là, donc commençons tout bas. Et que c'était le problème des pharisiens, parce que eux, c'était eux qui voulaient la première place, qui disaient, je mérite ça. Et Jésus dit, non, non, non. Le royaume de Dieu n'est pas basé sur ce que tu as fait pour Dieu. Le royaume de Dieu est basé sur ce que Dieu a fait pour toi. Bon. Des leçons de cette première parabole, juste pour résumer. Les places ne se méritent pas. Sachez que les places dans le royaume de Dieu ne se méritent pas. N'importe qui est invité. Et l'humilité, c'est-à-dire s'abaisser, engendra la générosité. Parce que la deuxième partie que je n'ai pas lue, il dit à ces gens, « Hé, n'invitez pas les meilleurs. Quand vous faites une fête, n'invitez pas les meilleurs, invitez les plus bas qui pourraient venir. Donc, ça engendre la générosité et ça, la générosité engendre la gratitude. Ça va être la deuxième parabole. John Newton, qui a écrit une chanson très connue dans le monde, Amazing Grace, ou La Grâce Merveilleuse, il a été un esclavagiste. Il a connu le Seigneur après avoir fait des atrocités dans le monde. Et il a dit une fois, il a servi le Seigneur toute sa vie après, mais il a dit, il y aura trois merveilles au ciel. La première merveille, c'est les gens que je ne pensais pas voir au ciel qui y seront. La deuxième merveille, c'est les gens que je pensais voir au ciel qui n'y seront pas. Mais il dit, la plus grande merveille, c'est que moi, je sois là. Et je dis, mais quand Dieu avait le choix d'inviter tous ces gens, bons gens, bonne santé, vous allez voir dans la deuxième parabole, il a choisi d'aller chercher les perdus. Et moi, je suis dans les perdus. Donc, l'humilité engendra la gratitude. Et c'est ça notre deuxième parabole, deuxième fête. Après avoir entendu ça, c'est les gens qui disent, « Oh, ça sera bon dans le... » dans le royaume de Dieu. Et Jésus dit, j'ai encore une histoire, encore une fête. Un homme organisa un grand festin et invita beaucoup de gens. À l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités, venez, car tout était déjà prêt. Il avait envoyé par la poste des invitations à beaucoup de gens, les gens importants. Et Jésus raconte que le premier homme envoie le message, oh, « Désolé, je ne peux pas venir, j'ai acheté un champ et je dois signer des papiers, je n'ai pas le temps. » Deuxième dit, « Excuse-moi, et j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer, mais je dois faire ça maintenant. » Et un autre dit, je viens de me marier, et je comprends, ma femme a dit, je ne peux pas aller. Bon. » Et le serviteur revient et il dit au maître, « Bon, désolé, mais personne ne veut venir. » Et le maître est perplexe. « Mais j'ai fait une fête, j'ai plein de nourriture, on a décoré la salle, on a fait tout ça. » Et les gens n'ont pas le temps. Ils ont des meilleures choses à faire que venir à ma fête. Et donc, le maître dit, mais la fête est prête, qu'est-ce qu'on va faire? Et il dit au serviteur, va sur les chemins, le long des haies, et ce que tu trouveras, oblige-les à entrer, afin que ma maison soit remplie. Au-dessus, il dit, va vite sur les places, chercher les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. C'est ce qu'il dit. Si les bonnes santé ne veulent pas être là, ça m'est égal. J'ai de la place pour quiconque. J'ai de la place pour ceux qui ne méritent pas leur place. Ils ne s'attendaient pas à une invitation. Aucun d'eux disait, pourquoi il ne m'a pas invité? Ils sont en train de dire, mais je comprends, hein, personne ne veut que je sois là. Et le serviteur arrive, il dit, mais toi, le maître veut que tu viennes. Et il va regarder, il dit, mais je ne suis pas bien habillé, j'ai pas... Le serviteur dit, le maître s'en fiche, va à la fête. Et lui, il laisse tomber tout ce qu'il a et il court, parce qu'il n'a jamais été invité avant. Et c'est ça le sentiment qui est, si le maître veut que je vienne, moi je viens, je cours. J'espère que vous avez ressenti ça un jour, quand vous avez compris la grâce de Dieu. Vous avez compris que sans que vous le méritiez, Dieu te veut. Dieu veut que tu sois avec lui. Et je tombe dans les larmes, je tombe dans l'humilité et je dis, Seigneur, si tu veux de moi, je veux de toi. C'est ça la grâce de Dieu. Mais Jésus dit à la fin, en effet, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon festin. C'est ça la leçon de Luc ici, c'est que celui qui ne sera pas abaissé ne sera pas élevé non plus. Celui qui pense être déjà élevé, il va être abaissé. Donc, on commence en bas. On reçoit l'invitation du roi des rois. On court à la fête. Et devinez quoi ? La porte s'ouvre. Et on entre pour l'éternité. N'est-ce pas merveilleux le salut ? Donc, il y a trois groupes de personnes mentionnées dans cette parabole. D'abord, ceux qui pensent mériter leur place. Les bonnes santé. Deux, c'est ceux qui sont rejetés. C'est un deuxième groupe qui est là. Et on ne les décrit pas trop, on dit simplement qu'ils ne sont pas invités. Je dis, ce sont des gens qui avaient essayé probablement de plaire aux bonnes santé, mais qui n'ont pas pu. La religion juive était remplie de ces personnes-là, des gens qui faisaient des sacrifices, qui allaient au temple, qui essayaient, et puis à un certain moment, un peu comme la personne qui arrive à la confession un jour, qui dit, mais ça fait quand même 10 ans que je n'ai pas fait de confession, et bon, le prêtre n'est pas content. Mais que ce sont ces gens-là, dans ce deuxième groupe, ils avaient essayé, ils avaient échoué. Il dit, ça ne sert à rien. Chercher Dieu, ça ne sert à rien. J'ai essayé tous les moyens et ça n'a pas marché. Et peut-être que vous êtes dans ce cas aujourd'hui, que vous avez cherché à faire ce que l'Église a demandé, à faire ce que les autres ont demandé, et puis ça n'a pas marché. Et je comprends. Mais j'aimerais vous dire que Dieu a une place pour toi. Et Dieu ouvre une porte pour toi, malgré qui tu es, malgré ce que tu as fait. Il ouvre une porte grande ouverte pour toi. Et troisième groupe, ceux qui sont, je les appelle des perdus. Ils savent qu'ils ne seront pas invités. Ils ont abandonné bientôt dans leur vie tout espoir de gagner le paradis. Et eux-mêmes ne pensent pas être invités. Quand ils reçoivent l'invitation, et je suis sûr, je comprends, ils entrent dans la fête, ils sont là comme ça. Ils vont me chasser. C'est sûrement pas vrai, c'est une erreur qu'ils m'ont laissé entrer. Et le mot du maître, c'est « oblige-les ». S'ils ne veulent pas, insiste. Ça, c'est l'attitude de Dieu envers les perdus, envers les gens qui ne connaissent pas le salut. C'est son attitude, c'est « je ne veux pas dormir, je ne veux pas fermer la porte avant que tous ceux qui peuvent entrer, entrent. » Cette porte est ouverte aujourd'hui. Cours. Donc, Dieu cherche ceux qui ne pensent pas mériter leur invitation. Le monde est rempli de personnes qui pensent mériter leur invitation et j'ai une mauvaise nouvelle pour eux, que la fête n'est pas pour eux. Enfin, c'est pour eux, mais qu'ils ne veulent pas. Et donc Dieu dit, je retire mon invitation. Dieu ne veut pas ceux qui veulent attirer l'attention sur eux et sur pourquoi ils pensent l'avoir mérité par leur propre effort. Parce que ça risque de devenir une compétition dans la fête du royaume de celui qui dit, bon, moi, Dieu était obligé de m'inviter. Et donc, la fête est pour, pourquoi ? La gloire du maître, non pas pour la gloire des invités. Comprenez ça. que le royaume de Dieu n'est pas pour toi. Même si on vit le bonheur, on vit le paradis, le royaume de Dieu est pour la gloire de Dieu. Dieu a fait toute cette rédemption, il a fait tout ce plan de salut pour que la gloire, la lumière soit sur lui et sur son fils Jésus, pas sur toi. Et donc, soyons reconnaissants d'être de la fête. C'est tout ce que je peux vous dire. Et je dirais, je vivrai le reste de ma vie avec cette attitude que je ne comprends pas, comme John Newton, je ne comprends pas comment moi je fasse partie de la fête. Mais je suis tellement reconnaissant qu'un jour, Dieu m'a pris dans ma haie, dans mon chemin écarté. Il m'a pris et il a dit, la fête, la porte de la fête est ouverte pour toi. Viens. Puis la troisième chose, l'humilité, la gratitude, c'est là où Jésus veut emmener peut-être plus ses disciples. À la fin de cette parabole ou ce passage, et il dit des leçons, pas une parabole, mais des leçons pour nous. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Combien ça coûte d'entrer à la fête? Il faut s'abaisser, il faut être reconnaissant d'être de la fête, mais Jésus dit, il y a quand même un prix. Et je vais résumer le reste de cet enseignement, parce que vous avez peut-être connu l'exemple que Jésus donne. Il dit, c'est comme un homme qui veut construire une tour, une maison. Et il commence. Bonnes intentions, mais à un certain moment, il regarde à la banque ou dans son porte-monnaie et il dit, oh, il ne reste plus grand-chose. Et donc, il y a une tour moitié construite qui va être là comme témoignage de sa bêtise. Jésus dit, il y a un autre exemple, un roi qui est parti en guerre et il a 10 000 soldats, il dit, oh, ça suffit, ça marchera. Et puis, il arrive devant l'autre armée, il y a 20 000 soldats. Et puis, tout d'un coup, le roi dit, on va plutôt... gentiment quitté. Et dans l'histoire, on va parler de ce roi comme la honte. Et Jésus dit, pour le royaume de Dieu, et parfois j'entends ça comme ça, il faut calculer le prix avant d'y aller. Okay? Vous avez lu ça comme ça? J'aimerais vous dire que je ne pense pas que c'est ça que Jésus dit. Jésus dit plutôt, au lieu de dire il faut calculer le prix, il dit plutôt il faut accepter le prix. Quoi que ça en coûte, il faut accepter le prix avant d'y aller. Et il explique bien quel est le prix. L'abandon de toi-même, l'abandon de tout ce que tu as, tu comptes sur ça pour ton confort, pour ton bien. Il faut dire que Jésus vaut plus que ça. J'accepte Jésus et le prix qu'il m'impose parce que ça vaut le coup. Et donc, combien ça coûte l'éternité? Ce n'est pas négocié. J'entends ça, bon, étant missionnaire en Afrique, j'entends des personnes qui veulent négocier avec Dieu. Okay. Souvent, c'est, bon, Seigneur... J'irai quelque part, mais il ne faut pas qu'il y ait des serpents. Il y en a ici. J'ai une femme un peu qui... Je sais qu'il y a des serpents, mais je ne veux pas les voir. Ça, j'accepte. Mais que David Livingstone, missionnaire du 19e siècle, il a dit une fois, quand quelqu'un a dit, mais Monsieur Livingstone, c'est comment les routes en Afrique? Bon, au 9e, 19e siècle, il n'y avait presque pas de routes. Et David Livingstone a dit, moi, je ne veux pas des gens qui veulent des bonnes routes. Je veux des gens qui viendront sans route. Et que je dirais que quelque part, on essaye toujours de négocier avec Dieu. Bon, je ferai ça, mais si tu me donnes ça, Jésus dit, acceptez le prix. Quel est le prix? Je vais finir avec un mot, je vais utiliser ça et conclure. Quel est le prix du royaume de Dieu? T-O-U-T. Tout. Okay. Combien ça coûte? Tout. Si vous n'êtes pas prêt à accepter le prix, ne commencez pas à marcher vers la fête. Si vous voulez payer vous-même, restez dehors. Parce que la bonne nouvelle, c'est que Jésus a tout payé pour toi. Comment on peut dire à Jésus, tu as tout payé pour moi, mais moi, je suis prêt à donner un peu. Donc, c'est pour vous expliquer, miser sur l'éternité, pour moi, veut dire que tout ce que je peux être, tout ce que je peux faire, tout ce que j'ai dans cette vie sur la terre, je place ça devant Jésus et dis, fais ce que tu veux. Parce que ça vaut le coup de tout donner à Jésus pour tout recevoir dans l'éternité. Je vais prier. Notre Dieu et notre Seigneur, Jésus a tout fait pour moi. Je ne comprends pas. Cette grâce, ce cadeau, le pardon de mes péchés, le salut pour l'éternité. Mais qu'est-ce que je peux faire en retour? Je sais que je serai dans la fête du royaume pendant toute l'éternité et chaque jour de ma vie, je vais dire merci Seigneur, merci Jésus. Je ne mérite pas, je ne pourrai pas rembourser, mais j'ai reçu comme cadeau le plus grand cadeau qui existe. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus. Amen.